Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors vous savez que du 28 janvier au 28 février, comme chaque année, et avec une journée mondiale le 2 février, on s'intéresse particulièrement aux zones humides. Alors on a pris l'habitude de célébrer cet anniversaire, et cette année, il prend une ampleur particulière. En fait, effectivement, il y a eu des tensions inégalées en l'espace de quelques semaines. On a eu des extrêmes chaleurs, on a eu de la sécheresse, etc. On a des tensions donc qui ont appelé à prendre de nouvelles mesures, aussi bien sur le climat que sur la biodiversité. Et ces mesures, eh bien, elles touchent en priorité les zones humides. Alors, les zones humides, on a décidé de leur protection il y a déjà bien longtemps, puisqu'une convention a été adoptée le 2 février 1971 en Iran, à Ramsar. Bien sûr, elle s'appelle la convention de Ramsar. Alors, elle engage les États membres à la conservation, à l'utilisation durable de leurs milieux humides. Elle prévoit la création d'un réseau mondial de zones humides d'importance internationale, les fameux sites Ramsar. Et la France va ratifier cette convention seulement en 1986. Et à partir de ce jour-là, elle s'engage à protéger près de 4 millions d'hectares sur le territoire français et dans les départements d'outre-mer. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai demandé à Maud Lelièvre, qui est présidente du comité français de l'UICN, qui a 20 ans d'écologie au compteur, hein, et qui a une proximité avec les contraintes territoriales, puisqu'elle est engagée depuis déjà bien longtemps auprès des écomaires. Alors en 2022, et vous l'avez peut-être vu en juin dernier dans Midi Libre, elle a signé, aux côtés de nombreuses personnalités, une tribune qui déclare que les zones humides sont notre assurance-vie face aux crises combinées du réchauffement et de la perte de la biodiversité. Alors Maud, bonjour.
Bonjour.
On nous dit qu'un lac ou une lagune ne sont pas forcément une zone humide. Enfin, j'ai lu ça. Alors, ça semble bien compliqué. Et quelle est la définition que vous vous donneriez de cet écosystème des zones humides ?
C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'être d'accord, notamment au plan international, sur des définitions. Pour faire simple et pour retenir quelque chose de simple, on peut dire qu'une zone humide est une portion de territoire, qu'elle soit naturelle ou artificielle, et qui est caractérisée par la présence de l'eau. Et puis, on peut revenir à la définition qui est plus précise encore, qui est celle de la convention de Ramsar, que vous citiez tout à l'heure à juste titre, la convention relative à la conservation et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, qui dit que c'est une étendue de marais, de tourbières, d'eau naturelle ou artificielle, de façon permanente ou temporaire, où l'eau stagne ou est courante, et qu'elle est douce ou saumâtre ou salée. Voilà, ça laisse les choses de façon assez large. On a, nous, en France, une vision plus précise des zones humides, qui est définie par le Code de l'environnement. Après, ça reste des sujets de techniciens, mais globalement, on peut retenir cette définition du traité international comme cadre de l'action nationale et internationale, et puis aussi pour pouvoir comparer les choses.
Bah alors, j'ai vu, par exemple, qu'au niveau international, on mettait dans le même sac les oasis, les deltas, les aquifères souterrains, etc. Et c'est quand même très différent de ce que nous, ici, on a comme vision des zones humides, avec la Camargue, par exemple, ou les étangs palavasiens.
C'est sûr, je pense que l'intérêt des conventions internationales avec des définitions un peu plus larges que les nôtres, que celles du Code de l'environnement sur le domaine public maritime ou les marais non asséchés ou ce genre de choses, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des États. Et c'est quand même l'objectif, parce que depuis, on est quand même dans une situation dramatique, l'étendue des zones humides elle a diminué de l'ordre de 64 à 71% au plan mondial. La perte et la dégradation des zones humides se dégradent partout dans le monde. En France, par exemple, parce qu'on est sur le territoire français, on a vu disparaître 50% des zones humides depuis les années 60. Donc même si
alors où, par exemple?
C'est malheureusement un petit peu partout, sur le territoire. Les causes, c'est l'artificialisation, ce sont des questions comme sur d'autres sujets de biodiversité, d'aménagement, qu'on a fait à des moments où on n'a pas pris assez compte de ce qu'était la biodiversité. Et puis, malheureusement, pour elles, les zones humides, elles sont un peu mal aimées. On a pensé de façon un peu historique qu'elles étaient des zones qui n'étaient pas salubres, que ce n'était pas des forêts, enfin, que ce n'était pas de l'écosystème de qualité. Et donc c'est sans doute pour ça qu'on y a fait moins attention.
Alors souvent d'ailleurs, on les a bétonnées.
On les a bétonnées, effectivement. C'est ces grandes questions d'aménagement et d'organisation du territoire. Alors ça, c'est pour la vision française. Et puis dans d'autres endroits, on pourra peut-être avoir un peu de temps pour y revenir. On a même eu des zones qui ont été protégées, qui se sont retrouvées dégradées. Moi, j'ai toujours un peu de tristesse sur la réserve d'Al-Ezwa, qui est au Yémen. On est au plus sur des zones qui sont quand même difficiles aussi pour les humains, et qui était une ancienne décharge, qui a été réhabilitée en zone protégée, qui a une jolie réserve naturelle et qui, depuis quelques années, est à nouveau ravagée par les déchets, évidemment à cause de la situation politique et diplomatique, à cause de la guerre. Mais en fait, on voit que tous ces systèmes de protection sont extrêmement fragiles. Et là, on avait une zone humide qui avait été réhabilitée. Et depuis 10 ans, on est à nouveau revenu à l'état de déchetterie. Et les oiseaux migrateurs qui nichaient ont disparu, etc. etc.
Donc, Vous parlez justement des oiseaux migrateurs. Alors, ils ont été finalement à l'origine un petit peu de la protection des zones humides. C'est-à-dire, c'est en fait un petit peu à cause des oiseaux qu'on est entré dans cette démarche au départ.
Ou grâce.
Voilà. Ou grâce, oui.
Effectivement, on retrouve d'ailleurs dans les fiches descriptives de Ramsar, parce que les conventions internationales, ça veut dire aussi beaucoup de choses assez techniques. Mais par exemple, au lac Tchad, au Niger, dans plein d'endroits, en fait, on a sur chacune des zones humides, on a des fiches avec des données de localisation, des données techniques, des justifications de l'importance du site. Enfin voilà, tout ça est très caractérisé. Et en fait, effectivement, la question des oiseaux et des oiseaux migrateurs est aussi fait partie des questions d'intérêt lorsqu'on a ces fiches Ramsar et l'examen de ces fiches Ramsar.
Alors, donc, en fait, dans un premier temps, ce sont les lieux d'arrivée des oiseaux. Dans un second temps, on s'aperçoit que surtout, ce sont des lieux qui deviennent très insalubres et donc il faut s'en occuper rapidement. Et puis, on s'aperçoit que au moment où elles disparaissent, elles jouaient un rôle extrêmement important.
Les zones humides, c'est le berceau de la diversité biologique. Elles fournissent à la fois l'eau, la productivité primaire. Elles sont nécessaires pour un nombre très important de plantes et d'espèces. Les espèces, on considère qu'il y a 40% des espèces animales et végétales qui soit y vivent, soit s'y reproduisent. C'est même si c'est que 6% de la surface terrestre, ça a un rôle essentiel. Et ça a une importance essentielle en matière de biodiversité. C'est un rôle d'utilité publique. Et puis après, elles ont d'autres rôles qui ne sont pas forcément celles directement de la préservation de la biodiversité, mais elles sont reconnues d'intérêt général parce qu'elles servent de régulateur contre les sécheresses, contre les inondations. On sait qu'avec la question aujourd'hui du réchauffement climatique, on aura des phénomènes de plus en plus important, on a besoin de remparts et pas que des remparts.
C'est-à-dire elles se conduisent comme des espèces d'éponges, donc elles se remplissent d'eau quand il pleut, et puis elles sont capables de redonner ensuite cette eau quand on en a besoin.
Voilà, c'est un régulateur naturel contre le dérèglement climatique.
Alors vous dites même, elles sont les reins de la nature, parce qu'en plus elles purifient l'eau que nous polluons.
Effectivement, elle dépollue. On a d'ailleurs en France, par exemple, je vais donner un exemple d'Île-de-France, pour dépolluer l'eau en Île-de-France, on est sur un territoire extrêmement dense, on a de l'eau qui est polluée par des métaux lourds, des nitrates, des pesticides. On a l'IRSTEA et le CNRS qui ont choisi de créer des zones humides. L'IRSTEA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Et dont ce travail a donné des résultats très significatifs. Sur l'exemple d'Île-de-France que je cite, sur 100 pesticides présents dans l'eau à l'entrée, on a une réduction de 50% en l'espace d'une semaine. Donc c'est vraiment, ça a vraiment d'autres utilités que simplement, et ce qui est déjà beaucoup, la préservation de la biodiversité. Et puis on parlait du climat, on peut citer aussi leur rôle en matière de stockage de CO2. Alors là, on est plutôt c'est plutôt du côté des tourbières qu'on a les meilleurs résultats. Les tourbières, c'est des territoires dont le sol est issu de la dégradation des débris végétaux de façon incomplète, dans un milieu qui est saturé en eau. Et elles stockent 25 à 30% du carbone. Donc on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas de toute façon régler la question climatique sans la biodiversité, que la biodiversité et la nature fait partie des solutions.
Et là, c'est un moment où finalement les deux grandes questions d'aujourd'hui se rejoignent.
Les crises climatiques et la crise du climat et la crise de la biodiversité sont des crises liées. Il faut les traiter de façon commune pour éviter de trouver des mauvaises solutions et puis surtout pour s'appuyer sur la nature là où elle faisait mieux que ce qu'on est capable de faire d'un point de vue technologique.
Oui, mais quand vous dites les traiter de la même façon, on a d'un côté le climat avec finalement un élément qui est extrêmement facile à repérer, enfin facile, on a des polluants immédiatement identifiés comme le méthane ou comme le CO2 et on peut les traiter et on peut mathématiquement gérer un peu cette crise climatique. La biodiversité, c'est quelque chose de beaucoup plus divers, on vient de le voir. Enfin, un oasis et une lagune n'ont rien de commun, il faut donc trouver les moyens de... comment peut-on... Et puis c'est très local, hein, donc quelle dimension internationale peut-on trouver et comment relier ces deux éléments?
C'était un peu le travail des COP qu'on a eu en fin d'année, des conférences des parties. Il y a eu celle sur le climat dont on entend toujours plus parler, mais également celle sur la biodiversité qui avait lieu à Montréal. Et tout l'enjeu, c'est justement de trouver des indicateurs internationaux pour arriver à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Parmi les indicateurs retenus, on a la part de la surface artificialisée, le nombre d'espèces exotiques envahissantes, la part des cours d'eau en bon état écologique ou la part du couvert arboré pour les forêts. Tout ça sont des sommes qui sont mobilisées en faveur de la biodiversité, mais qui répondent aussi à la crise du climat, parce que ça ne sert à rien de préserver le climat s'il n'y a plus de vivant sur Terre. Et on ne peut pas simplement se dire qu'on va régler la question de la biodiversité si on n'aborde pas la question de crise climatique. C'est aujourd'hui le troisième facteur de disparition de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique, et demain, ce sera le premier. Donc il faut évidemment traiter les deux avec des indicateurs. Les indicateurs se répondent, c'est pour ça que les COP doivent se parler et les négociateurs internationaux doivent traiter les choses ensemble. Et il faut des indicateurs qui sont forcément compliqués. Et pour atteindre ces indicateurs et ces objectifs, il faut forcément des finances. Tout ça est sensible et compliqué, mais si c'était simple, on aurait trouvé la solution, je pense, depuis 30 ans.
Évidemment. Mais alors, la France, bien sûr, se trouve en ligne de mire sur ses responsabilités. Et puis, pourquoi? Parce qu'elle a des départements ultramarins, outre-mer, hein, et que finalement, elle se trouve dans tous les océans. Donc, elle est la deuxième puissance mondiale sur le plan de la mer. Et aujourd'hui, elle a des zones humides un peu partout dans le monde qui ont rejoint le réseau Ramsar. Et nous allons voir d'ailleurs que nous allons rejoindre Alain Pivot qui est sur le site du grand cul-de-sac marin de la Guadeloupe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cette baie a été fermée par un récif corallien. Elle est peu profonde, mais elle retient énormément d'espèces marines et notamment d'espèces de poissons. Elle est parsemée d'îlets et elle est surtout bordée par 5000 hectares de mangroves qui sont toujours menacées par le développement urbain puisque ces zones de mangroves sont très proches du principal centre urbain de la Guadeloupe qui est Pointe-à-Pitre. Alors, Alain Pibault, qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne cet écosystème, était à l'époque au Conservatoire du Littoral, au moment où nous l'avons rencontré, et il agit désormais au sein de l'Office français de la biodiversité et de l'OFB.
Fond, hein, il n'y a pas beaucoup de fond. Là, ici, on est sur des secteurs où il y a entre 50 cm et 1 mètre de fond, sur une vaste étendue. Et là, on est en plein dans des zones cœur de mangroves.
C'est un habitat riche. Si on arrivait à avoir un petit peu dans l'eau, d'ailleurs, c'est rempli d'alevins. Et là, le rôle nourricier de la mangrove, on l'observe bien. Là, c'est idéal pour illustrer un petit peu la fonction de nurserie des mangroves qui sont remplies de vie, en fait. On voit une jeune crevette là-bas qui est passée. Il y a beaucoup de vie quand même au pied de ces palétuviers qui sont de véritables niches de vie pour la plupart des cycles de vie de beaucoup d'espèces marines, crustacés, mollusques et poissons. Alors là, sur les racines, les fameuses huîtres de palétuviers qui vivent dans cette frange-là, entre la marée haute et la marée basse, et qui sont particulièrement appréciées des connaisseurs parce qu'elles sont fines et rares, parce qu'embêtantes à ramasser, très coupantes. Alors, il y a certaines études qui ont montré que jusqu'à 30% des espèces pêchées commerciales ont une partie de leur cycle dans la mangrove. Alors, le plan mangrove qui a été annoncé par la ministre Ségolène Royal a pour vocation à mettre en sécurité foncière le gros des mangroves françaises, donc un objectif de 35 000 hectares de mangroves qui seront protégées par le Conservatoire du Littoral et par d'autres partenaires, comme l'ONF, comme les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, etc. L'idée, c'est vraiment d'essayer de protéger cet habitat exceptionnel. On connaît depuis longtemps l'intérêt écosystémique, on connaît depuis longtemps l'intérêt halieutique de cet habitat. On connaît depuis notamment les épisodes de tsunami en Asie, l'intérêt des mangroves en termes de conservation et de préservation des côtes face aux événements climatiques exceptionnels. Aujourd'hui, on découvre aussi un petit peu le rôle de la mangrove dans tout l'aspect géomorphologique, à savoir que la mangrove arrive à stabiliser une partie des sédiments. On en connaissait et on en valorisait un petit peu le rôle par rapport à ce qui est apporté à la mer, c'est-à-dire que on connaissait tout l'intérêt des mangroves pour préserver les récifs coralliens parce que les eaux sont épurées en amont et donc les eaux sont moins chargées et quand elles arrivent dans les zones coralliennes, elles sont moins turbides, donc elles gênent moins un petit peu la vie corallienne. Ce qu'on suivait pas trop et qui commence à sortir aujourd'hui et qui a un intérêt particulier dans le cadre du changement climatique et de l'élévation du niveau marin, c'est que finalement tous ces sédiments qui n'arrivent pas en mer sont stockés en amont et le niveau des terres en amont des mangroves remonte au fur et à mesure de ce stockage. Et finalement, on a des littoraux qui s'élèvent en même temps que l'élévation du niveau marin et qui éviteront des submersions marines sur toutes les côtes sur lesquelles on a les mangroves.
Alors, Maud, on sait que sur la mangrove, effectivement, la France a développé un plan mangrove, puisqu'elle en a un peu partout dans les Caraïbes, elle en a aussi du côté de Mayotte, elle en a en Polynésie, un tout petit peu, parce que dans l'océan Pacifique, il y en a moins. Mais quelles sont aujourd'hui les responsabilités de la France par rapport à ces plans mangroves ?
C'est positif, il faudrait que la France ait développé ses plans successifs. C'est ce qu'on attend généralement des États lorsqu'il y a une convention internationale. Et en fait, ce plan, c'est la contribution de l'État français à la mise en œuvre de la convention de Ramsar sur les milieux humides. on a, et ces plans permettent de, généralement de définir des orientations stratégiques et de rendre cohérent ça par rapport à d'autres sujets, notamment la stratégie nationale de la biodiversité. Donc il y a des objectifs à atteindre. En fait, ça donne en gros les volets d'application de façon concrète des conventions internationales, comme on l'a eu sur les accords de Paris, après la COP, et comme on l'attend de l'avoir aussi sur la biodiversité. Et l'idée de ce plan, c'est de renforcer la mise en œuvre en lien avec d'autres accords multilatéraux sur l'environnement, de développer des outils stratégiques pour gérer les autres, parce qu'il faut donner les outils notamment à ceux qui mettent en œuvre. Donc ça passe à travers les choses qui sont déjà connues, mais comme renforcer les actions, éviter, réduire, compenser dans les zones humides en privilégiant l'évitement et la réduction, ou en faisant des inventaires, ce genre de choses. Et puis, c'est surtout très important, en tout cas pour l'UICN, c'est prévenir et préserver, reconquérir, les zones humides, que ce soit dans des cadres européens ou dans des cadres nationaux, en faisant lien entre les Outre-mer et les territoires
français. Alors, tout cela, c'est le discours des conventions internationales. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, on le voit ? Par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le Yémen, donc on sait parfaitement que la convention, protégée, compensée, etc., fonctionne plus ou moins bien.
Il faut l'incarner. Alors, vous avez raison, ça c'est les grandes lignes thématiques, mais quand en France on développe un observatoire national des zones humides pour avoir des indicateurs, ou quand on fait des études territoriales pour évaluer les services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides, et qu'on s'appuie sur des données de l'IPBES, ou quand on fait un inventaire de nos propres
données. Alors l'IPBES, donc, c'est l'équivalent du GIEC, c'est-à-dire c'est les scientifiques qui s'occupent de la biodiversité.
Oui, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, et ça fait à peu près la même chose, et fort heureusement, parfois, ils travaillent avec les spécialistes du GIEC pour donner, en gros, l'état et l'avenir, l'état de la biodiversité et l'avenir. Voilà.
Non, mais c'est important parce que ici sur Montpellier, on a des gens qui ont travaillé de très près, donc Yann Sun notamment, qui ont travaillé de très très près à cette IPBES et à sa construction, dans la mesure où l'écologie systémique est quelque chose qui est très fortement pris en charge ici. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle d'écologie systémique, on en arrive à une question qui va être grandissante en termes d'importance, c'est-à-dire que ces zones humides dépendent forcément des arrivées d'eau, enfin de ce qui leur arrive comme eau. Alors, ça peut leur arriver par la pluie. On a vu qu'on était dans des zones de sécheresse. Enfin, nous, ici, sur Montpellier, on l'a bien vécu. On a eu un déficit quand même hydrique extrêmement important et on a de moins en moins de pluie. Les épisodes Cévenol ne sont pas descendus aussi bas que d'habitude. Et les grands fleuves, aujourd'hui, sont menacés de sécheresse. Et avec eux, bien sûr, l'ensemble des zones humides qui se trouvent au niveau de leur du moment où ils se jettent dans la mer, de leur estuaire, eh bien forcément toutes ces zones s'appauvrissent. Et qu'est-ce que vous avez pu voir, enfin dans la convention que vous signez, dans la tribune que vous signez, l'appel que vous faites avec des gens comme Eric Arsena par exemple, sont des grands cris d'appel et d'alarme justement sur ces grands fleuves.
Oui, et puis Eric Orsena, et puis également la Tour du Valat, qui est quand même une des ONG françaises qui porte beaucoup ces sujets. L'idée, c'est qu'on doit avoir un nouveau partage de l'eau en plaçant le vivant au centre des réflexions. Donc on a toutes les questions qui sont les questions politiques du moment, l'accaparement de l'eau en plaine, dans les méga-bassines. On a eu des gens qui ont manifesté récemment, ou en montagne, pour produire de la neige artificielle, tout ça doit être vraiment fini. Je crois que c'était dans votre générique qui disait que nous étions une partie du problème. Nous sommes une grande partie du problème sur un certain nombre de sujets, notamment l'avenir des fleuves et des grands fleuves. Donc il faut faire des arbitrages aujourd'hui en matière d'irrigation des cultures, des productions hydroélectriques, de refroidissement des centrales nucléaires. Il ne faut pas se dire finalement qu'on a un bien gratuit et qui sera forcément là toujours en bonne quantité et qu'on pourra l'utiliser sans fin. Donc il faut intégrer ce nouveau partage de l'eau dans au cœur de réflexion.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler très certainement au cours de cette émission, parce que l'eau va être réellement un des gros problèmes qui vont se présenter dans l'avenir. Alors, je voudrais, à l'occasion de cette journée sur les zones humides, revenir un peu sur un grand nombre d'initiatives. Du côté de l'UICN, vous avez sans doute pris déjà des initiatives aussi.
Alors, on travaille c'était très intéressant votre reportage sur l'outre-mer, parce que nous, on a effectivement un grand volet depuis longtemps en Outre-mer. On travaille d'ailleurs de façon coordonnée avec le Conservatoire du Littoral. Et puis, on a de façon concrète sur les mangroves, sur les zones humides et notamment sur les territoires d'outre-mer, un travail notamment sur l'évolution des mangroves aux Antilles, sur un réseau d'observation et d'aide à la décision. Et puis des choses en milieu scolaire, moi, j'aime bien les évoquer parce qu'il faut travailler sur les aires éducatives. Il faut les orienter vers le territoire que connaissent les élèves, ce qu'ils peuvent fréquenter, parce que c'est là aussi demain qu'on aura une partie des solutions avec des gens qui auront envie de protéger leur biodiversité de proximité.
Alors, on a effectivement plusieurs centaines d'initiatives qui vont se dérouler en France et en Outre-mer. On a une cinquantaine d'acteurs en réseau qui se sont associés à ces journées mondiales. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la plateforme avec l'ensemble des éléments sur JMZH, J comme journée, M comme mondial, Z comme zone et H comme humide. Donc jmzh@ramsarfrance, tout attaché. .fr. Donc là, vous allez retrouver tous les rendez-vous. Et puis, vous pouvez alors aussi retrouver la lettre Rhizome qui est éditée par justement l'UICN Outre-mer avec un grand concours de dessins. Vous avez le pôle Lagune sur la région de Montpellier. Et puis, je voudrais vous parler d'un ouvrage que moi, j'ai particulièrement aimé, qui est le numéro 15 de la revue Relief, qui est consacré aux marais. Alors, ça s'appelle marais, ça aurait pu s'appeler zone humide, mais je trouve cette revue extrêmement belle. Merci Maud, et donc à bientôt. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.
Merci, à bientôt, au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.